Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis aujourd'hui à Bonneuil-en-Valois pour une édition de Jour de Fête qui se fait ailleurs qu'à Feigneux cette année et je vais aller rencontrer différents stands qui exposent pendant ce festival. Je suis avec Mathieu, donc du miel des Chaous. Mathieu, vous êtes apiculteur, c'est ça ?
Ouais, tout à fait, ouais. Apiculteur récoltant, côté de Vosciennes, un petit hameau qui s'appelle le Plessis au bois.
Depuis donc, combien de temps ?
Oh, maintenant, ça fait quelques années. Alors, la passion nous a pris quand on était petit. Et puis après, au fil du temps, de fil en aiguille, on a fini par se professionnaliser. Ça fait maintenant une petite dizaine d'années.
Et vous avez combien de ruches ?
Alors, une bonne quarantaine. Mais ça, en fait, les ruches, avec la mortalité actuelle sur les cheptels, en fait, ça peut passer à 50, redescendre à 30, mais vraiment d'un mois à l'autre, en fait. C'est quelque chose en pleine saison, je parle, hein, parce qu'après l'hiver, en général, les abeilles sont au repos, elles dorment, et à ce moment-là, bah, c'est qu'au printemps qu'on se rend compte si on a eu de la perte ou pas.
Ouais. Et il y a plus de mortalité en ce moment, c'est ce que vous dites ?
Depuis quelques années, oui, on a pas mal de problèmes, effectivement.
Ouais, qui viennent de nous.
On a des fléaux qui sont des petits acariens qui s'appellent le varroa, qui sont vraiment destructeurs, en fait. Ils transportent des maladies, ils affaiblissent totalement les colonies. Il faut réussir à lutter contre ça. Il y a le frelon asiatique qui s'est installé ici, il y a quelques années aussi. Voilà, ça, c'est, ça met une pression énorme sur les ruches. Mm-hmm. Si elles sont un peu faibles, elles passent pas un très grand moment face à un nid de frelon. C'est terrible, quoi. Voilà. Donc, il faut trouver des endroits adaptés, des beaux biotopes où il y a de la nourriture.
Oui,
parce qu'il y a aussi de moins en moins d'endroits où elles peuvent se nourrir. Ça, c'est lié à la déforestation. C'est lié... il y a beaucoup de monocultures maintenant aussi qui ne sont pas du tout mellifères. Donc, toutes ces choses-là mises bout à bout font que le déclin est en route, quoi.
Vous arrivez encore à trouver des endroits et donc vous bougez vos ruches.
Ah oui, bien sûr.
C'est ça, c'est un endroit.
Ah non, mais la Picardie, je ne suis pas en train de me plaindre non plus. Hein. La Picardie est vraiment un biotope exceptionnel, quoi.
Vous faites quel type de miel ?
On en a plusieurs, on n'a pas une gamme extrêmement grande, mais on essaie de bien les faire en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Alors, on a un miel de fleurs, toutes fleurs, que l'on fait donc au mois de mai, juin. On a un miel de printemps qui est fait au mois d'avril, un miel de pommier également au mois d'avril, donc ça c'est un monofloral. Ensuite on a un miel de forêt parce qu'on habite en plein cœur de la forêt. On a un miel de tilleul parce que j'arrive à transhumer les ruches en forêt d'Alate. Il y a des tilleuls bi ou tricentenaires qui sont monstrueux et qui nous donnent un nectar fabuleux. Bon, voilà. Après, on fait des petites récoltes sur le tournesol ou sur le sarrasin. Mais ça, c'est vraiment plus sporadique. Hein. C'est...
On le trouve où, votre miel ?
Directement chez
sur
nous.
Sur place, ouais,
voilà. Et après,
bois,
ouais, exactement, au Plessis au bois, chez nous. Et après, on travaille des boulangeries aux alentours, dans les villages aux alentours ou dans les villes. Villers-Cotterêts, Crépy-en-Valois. On les trouve à la réserve aussi, à Crépy-en-Valois. Ben voilà, il y a pas mal de points de vente. Après aussi, on travaille avec quelques restaurants, avec quelques hôtels.
Vous arrivez à en vivre ?
Oui.
Ouais, oui, très bien.
Okay. On n'a pas encore acheté le yacht, mais ça viendra.
Ouais, c'est pas votre rêve,
non,
donc
non,
c'est pas un problème.
C'est loin d'être le rêve, c'est clair.
Ok, merci clair. Mathieu.
Merci beaucoup.
Je suis avec Céline Roms, donc les Jardins de Pondron. Pouvez-nous parler de... c'est quoi ? C'est un maraîchage, j'imagine ?
Tout à fait, c'est un maraîcher qui se trouve à Pondron. Le jardin, lui, se trouve à Leberval. Donc ce sont des produits uniquement de saison que nous vendons. Donc un distributeur à Pondron et un distributeur à Crépy-en-Valois avec Monsieur Thomasin qui fait lui des tomates. Et nous organisons un petit marché à la ferme de Pondron tous les samedis matins de 10h à midi.
Et là il y a quoi par exemple ?
Alors là on a amené pommes, poires, pommes de terre, poireaux, aubergines, poivrons, champignons, potimarrons et jus de fruits, pommes, poires. Une petite partie de ce qu'on a en ce moment.
Vous êtes en bio ou pas du tout ?
En agriculture raisonnée.
Ça veut dire ?
Ça veut dire que minimum de traitement. Là, les produits que vous avez sous les yeux, il n'y a pas eu de traitement. Il faut
d'accord.
vraiment qu'il y ait une grosse attaque de quelque chose pour qu'on puisse...
Bah oui, pour les protéger.
Voilà.
Mais les vendre.
non, mais bon. On essaye un minimum, hein. C'est vraiment au cas où. Là, il n'y a pas eu de traitement sur les produits qui sont là.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie.
De rien.
Bonne continuation.
Merci.
Merci. Je suis avec Jérôme Guégan qui occupe un autre stand de jour de fête à Bonneuil-en-Valois cette année, comme j'avais déjà dit. Qu'est-ce que vous avez comme type de produit? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, mon activité principale, c'est des bocaux sucrés, salés, vraiment personnalisés, et des produits principalement locaux. Producteurs locaux de légumes,
oui,
de viande, de champignons.
Et pourquoi dans des bocaux?
Disons que par rapport à l'activité précédente, j'étais chef cuisinier, pâtissier, je connais l'hôtellerie, et l'avantage du bocal, c'est qu'il n'y a pas le fameux coup de feu et la conservation qui est longue.
Le coup de feu, qu'est-ce que c'est?
Le coup de feu, c'est quand vous allez manger au restaurant, c'est toute la pression qu'il y a pendant le service, donc qui est quand même assez intense,
ouais,
et ce qui permet justement de garder ma passion en faisant des bocaux, au lieu d'être dans un restaurant.
Ah oui, oui,
je produis en bocaux.
Vous n'avez plus.
J'ai plus ce fameux coup de feu,
okay,
qui est intense, et bon, on arrive à un certain âge où on aime ce qu'on fait, mais d'une autre façon.
Vous arrivez à en vivre donc de vos bocaux?
Oui, ouais, c'est, en plus ça devient un petit peu à la mode. Hein.
Et qu'est-ce qu'il y a comme produits locaux donc du coup?
Alors là, on peut trouver par exemple du champignon. Donc, là, c'est ce qu'on appelle un caviar de champignon qui vient d'une carrière qui se trouve à Vosciennes. Donc 100% local,
bon,
sans conservateur, sans colorant. Donc, on trouve un ketchup de tomates d'un producteur local. Tomate bio, donc un ketchup sans conservateur. C'est sucré au miel,
mm-hmm,
et c'est vraiment 100% local.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Alors, on peut trouver après, donc il y a des confitures,
ouais,
différentes confitures.
C'est vous-même qui faites les confitures?
C'est, ouais, c'est mon métier.
Ah ouais, c'est du boulot.
Tout simplement, ouais.
Vous cuisinez chez vous, quoi?
Oui, j'ai un petit laboratoire, ouais, à la maison, donc je travaille principalement pour des partenaires, mm-hmm, et épiceries fines.
Et comment on trouve vos produits, donc, à part ici, à jour de fête, on peut les trouver?
Alors, on trouve soit en épicerie fine dans la région, sur Crépy, sur Villers-Cotterêts, et également sur un site e-commerce que j'ai créé.
Il s'appelle comment?
Donc, c'est JG, créateur de bocaux.
JG comme votre
nom? Comme mon nom, mon prénom, créateur de bocaux. Alors, tout simplement.
Bon, écoutez, ça a l'air tout à fait délicieux.
Voilà, donc également ici du sucré.
Et ça se conserve bien dans les bocaux, j'imagine.
L'avantage du bocal, c'est la conservation longue durée, donc minimum 2 ans. C'est l'avantage de la stérilisation.
Et les bocaux, vous les faites comment? C'est pas vous-même qui fabriquez
non,
les bocaux?
Non, le verre, je pense, le verre, il est commandé.
Il est commandé.
Il est commandé chez un partenaire.
Il y a plusieurs formes de bocal.
Oui, c'est. Bah, disons que maintenant, on trouve beaucoup de choses dans le commerce. Hein.
Mm-hmm.
Donc le visuel est important également.
Bon, bah écoutez, c'est une bonne idée en tout cas. Et bonne continuation à vous.
Merci à vous.
Je suis avec Frédéric Tellier qui, alors bon, moi je te connais déjà parce que tu fais des instruments de musique avec ce que tu trouves dans la nature. Ça, c'est quand même assez génial, quoi. Et là, tu es en train de faire quoi, par exemple?
Alors, c'est un petit tricatraca, à base d'une plante qui s'appelle la cardère. C'est une plante très répandue sur les bords des routes. Cardère, parce qu'autrefois, on servait ces plantes pour carder la laine.
Mm-hmm.
Voilà. Et en fait, là, je suis en train de faire un petit instrument, genre petit moulin. On va peut-être entendre dans le micro.
Oui.
Je ne sais pas. Et donc, c'est un jouet d'enfant, en fait.
Ouais.
Et moi, je fais rien d'autre que de perpétuer, de transmettre ces petites recettes que les gamins connaissaient autrefois.
Et c'est vrai que tu te balades, en fait, dans la nature, mais tu dois innover à chaque fois, j'imagine. Et bien, il y a des choses qui fonctionnent. Comme quoi, d'ailleurs? Parce que qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Tu peux nous dire ce qui fonctionne comme type de plante pour faire des instruments?
Alors, il y a d'abord le fameux brin d'herbe qu'on met entre les deux pouces, que tout
oui,
le monde connaît.
Ouais.
Et ça, j'avoue que à chaque fois que je demande aux gens s'ils connaissent, ils me disent « Ouais, on connaît ». Quand je leur demande « Est-ce que vous en avez parlé à vos enfants ?» Ils disent « Non, mince, on a oublié ».
Ils transmettent pas.
Ouais. Et donc, c'est ça le problème. Donc, le brin d'herbe, là, on peut en trouver un, puis on peut le faire sonner, bien sûr.
Ouais.
Sinon, là, il y a le petit compagnon blanc, la fleur de silène. En ce moment, il y en a plein sur le bord de route également.
Ouais.
C'était tout blanc il n'y a pas longtemps. On enlève un petit peu. Alors, ceci est cassé, j'en prends une autre. Alors, voilà, dans la nature, il faut faire ce qui nous est offert.
Des comment fois, ça t'est venu, cette idée?
Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche
t'es
pas.
T'es musicien ou pas, déjà?
Alors, je suis un peu musicien autodidacte. Pour ceux qui sont de Crépy, ils connaissent peut-être la sauce au bœuf et cet endroit musical qu'on a créé avec des copains. Et donc, on était un peu touche-à-tout. Et du coup, je me suis rendu compte qu'à travers des ouvrages, puis en glanant aussi auprès des anciens. Les anciens ont encore des recettes comme ça.
Oui, bah, c'est ça, l'histoire de transmission.
C'est ça.
Et bien, tu reprends des recettes des anciens et tu les transmets aux générations d'après.
En fait, c'est un passeur.
Comme
voilà.
Toi.
Je suis un passeur de recettes sonores.
Donc là, tu es en train de décortiquer
la fleur de silène et je vais siffler dedans.
Ça fonctionne très très bien.
Et quand
bien,
on voit cette plante au bord de route,
oui,
on peut dire
que c'est tout simple, finalement.
C'est une plante à siffler.
Il faut juste avoir l'idée d'eux. Et toi, qu'est-ce que tu as comme type d'instrument, mademoiselle?
sais pas.
Tu sais pas ? C'est fait avec quoi ?
C'est un casou ou un mirliton, c'est tout. Je choisis le nom. Casou, c'est pas mal.
Et ça fonctionne comment ? Tu mets ta
faut
bouche là dans le trou, ouais. Ah bah oui, c'est vrai. Vas-y encore. Merci.
Alors le casou, on peut n'importe quel air qui nous passe par la tête, on peut le chanter. Et en fait, c'est la voix qui fonctionne. C'est plutôt
ouais,
un masque.
C'est joyeux en plus. Hein. Ouais. Je suis sûr que les enfants, ils adorent. On va juste transmettre après, t'oublieras pas, à tes propres enfants.
Oui.
Et donc,
alors, voilà. Aujourd'hui, globalement, je présente 4 petits instruments d'automne. Mm-hmm. Donc la cardère qui sèche maintenant, on trouve sur le bord des routes. La silène qui vient, pareil. Le petit hochet de jonc.
Ah, c'est joli en plus. Super. Hein. C'est bien parce qu'il y a de l'esthétisme en plus dans les instruments de musique.
C'est ça, bah, mal, c'était hein. Vachement pratiqué. Hein, c'est un peu le principe du Scooby-Doo, mais pour faire un hochet.
Et ça a un nom à chaque fois, c'est toi qui les donnes ou ce sont des noms existants ?
Les noms, soit le hochet, là, parce que ça ressemble à un hochet, ça
ouais.
va. Sinon, en général, vu que ça a été propagé dans toutes les régions de France, dans les campagnes, chaque région va avoir son petit nom.
Son appellation ouais, propre. Son ah oui, c'est excellent.
Voir sa petite formulette pour le réaliser. Des fois, il y a des petites formules magiques à réciter au moment où on fait l'instrument pour être sûr que ça fonctionne.
Est-ce que tu es en contact avec d'autres personnes qui font la même chose que toi ?
J'ai organisé à un moment donné de ma vie, mes vacances autour de cette question-là. J'ai donc rencontré plusieurs personnes. On n'est pas nombreux du tout.
C'est... Ça peut être une mini-forme de réseau quand même, non ?
Ouais, mais alors...
Petit réseau.
Vraiment, vu le succès que ça remporte, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de gens qui s'intéressent à cette...
Bon, bah écoute, il faut continuer à transmettre
voilà,
ce que tu
coup.
Fais, donc bravo. Merci. Alors... Je suis maintenant avec Charline de l'Atelier des Comètes. Qu'est-ce que c'est que l'Atelier des Comètes, Charline ?
L'Atelier des Comètes, c'est un atelier zéro déchet de couture. Moi, je transforme d'anciennes blouses de grand-mère que vendait mon père. Elles étaient fabriquées au-dessus de Saint-Quentin et moi, je revalorise la matière première. Donc, je les lave avec une lessive que je fabrique, je les démonte, je les découpe et ensuite, dans un premier temps, je les enduis de cire d'abeille de notre production, parce qu'on est aussi apiculteur, de résine de pin des Landes et d'huile de coco bio pour créer une alternative au cellophane et à l'aluminium. Et après, dans les chutes d'atelier, donc, je revalorise en créant des sopalins lavables, des éponges en tout genre lavables, tout ce qui est vêtements, articles du quotidien habituellement jetables. J'essaye de trouver une alternative écologique et durable en lavable.
C'est une très belle initiative, ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de blouses de grand-mère qui traînent à droite à gauche ?
Chez mon papa, oui. J'essaie de revaloriser la matière neuve. Puis après, il y a aussi des tissus que je suis obligée d'acheter parce que, souci de robustesse de tissu, dans les blouses, je ne peux pas tout faire. Donc, par exemple, pour un sac à tarte, il faut un tissu un peu plus robuste. Donc là, je me fournis auprès de producteurs français. Et puis, tout ce qui est coton bio labellisé, j'ai une productrice qui est à Mazera, dans le milieu de la France, qui commercialise des cotons avec un engagement écologique, mais aussi éthique. Parce que qui dit écologique ne veut pas forcément dire éthique. Mm-hmm. Là, il y a un engagement où on est sûr qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent, que tout le monde est payé à juste valeur. Parce que le problème du coton, quand il est bio, c'est qu'on ne peut pas le produire en France, même le coton classique. Donc là, elle part en Turquie les faire fabriquer et elle tient toute la chaîne de production pour pouvoir avoir une traçabilité de production. Donc un gros engagement derrière. Et elle fait tout ça en bateau pour avoir un impact moindre.
Et si des gens ont envie d'acheter vos tissus, ils font comment pour vous trouver ?
Pour l'instant, moi, je vends principalement en foire, marché, engagé. Et j'ai un Facebook où je communique toutes mes dates. J'essaie d'exposer 2 à 3 fois par mois. Et puis après, on peut aussi venir à l'atelier. Moi, j'ai un projet de créer une boutique à l'atelier avec la vente du coup de mes articles, mais aussi la vente du miel, la vente des œufs, parce qu'il y a un projet d'écolieu sur mon site.
Où ?
À Tracy-le-Mont.
Ok. Mm. Et l'atelier des comètes à Tracy-le-Mont, c'est facile à trouver. On a envie de venir vous voir.
C'est assez facile, ouais.
Ouais. Vous n'êtes pas tout le temps sur place, donc c'est mieux de vous contacter avant.
C'est
j'imagine.
Ça, ouais. C'est mieux.
Via Facebook ou autre.
Facebook ou ouais, par téléphone, okay. Sans problème.
Bah, merci beaucoup, Charline.
De rien.
C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à Jour de Fête à Bonneuil-en-Valois où j'ai rencontré plusieurs personnes sur différents stands qui exposaient. À bientôt.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.